BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être là, bienvenue dans De quoi je me mêle. Vous le savez, le samedi et le dimanche sur BFM Business, vous pouvez retrouver cette émission à la radio et à la télé. Et puis dès le vendredi, dès midi, en exclu, podcast audio et sur la chaîne YouTube de Tech & Co, votre rendez-vous tech donc. Très heureux d'être là, bien évidemment, avec deux parties. Tout à l'heure, second chapitre, ce sera notre rendez-vous Labo Fnac avec Lionel Costa qui sera là. C'est le directeur du Labo Fnac et avec lui, on va s'intéresser en fait à un produit qu'on aime bien avoir pendant les vacances. Ce sont les enceintes nomades. Alors, en général, c'est les voisins qui sont moins contents, mais tous ceux qui sont propriétaires de ces enceintes aiment bien. Alors voilà, pour les barbecues, pour les piscines, etc., il y a aujourd'hui un choix énorme. On vous donnera les meilleurs, promis. Ce sera tout à l'heure. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, si vous voulez nous rejoindre sur Twitter. Bienvenue encore une fois à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans De quoi je me mêle. Et on commente l'actu pour débuter avec Anthony Morel qui est là. Salut Anthony.
Salut François, salut tout le monde.
Tout va bien Anthony ?
Mais ça va très bien.
Voilà, tu étais à ma place la semaine dernière.
Oui.
Tu as mené ça de main de maître.
Oh, t'es adorable.
Voilà.
Tu nous as manqué.
Bah écoute,
on est content que tu sois de retour.
Et ben, on est ravis aussi de te retrouver, Anthony, que vous retrouvez tous les matins donc sur BFM Business et à la mi-journée sur RMC. Et Damien Licata Caruso est avec nous aussi. Salut Damien.
Bonjour, bonjour à tous.
Salut.
Grand journaliste au Parisien.
Grand, grand.
Qu'on ne présente
plus. 1,83.
Voilà. Une belle taille pour un journaliste.
Ouais, ça va.
Et qui va commenter avec nous toute l'actualité de cette semaine qui est bien sympathique. Et puis tu vas nous raconter aussi ton périple puisque tu es parti en Chine. Aller voir Huawei à Shenzhen.
Oui, qui n'est pas la région la plus touristique de Chine, mais qui est très intéressante. Parce que vous savez, quelque chose qui contient l'électronique à côté de vous, ben, ça vient certainement de Shenzhen.
Exactement.
Parce que c'est l'usine du monde.
Oui, je crois que certains iPhones sont fabriqués là-bas, hein, je crois.
Oui.
Il y a l'usine Foxconn qui est là-bas, qui est juste en face du laboratoire de recherche et développement de Huawei, d'ailleurs.
Tout à fait. Ouais. Ouais.
Ça, c'est bien, parce que tu as tout le monde à côté.
Les mecs, ils ont juste à traverser la rue, c'est pas compliqué.
Ça, ils peuvent dire.
Tu vas où ? Bah, je fais Apple. Écoute, je vais chez Huawei.
Okay.
Fais attention au feu.
Il peut le faire du covoiturage, c'est pratique.
Ça, c'est pratique.
Ouais, franchement. Ouais.
Bon, tu nous raconteras tout ça tout à l'heure parce qu'on voit que Huawei ne s'endort pas et accélère sur la véhicule électrique, sur la robotique, etc. etc. Mais pour débuter, dans l'actu, Cocorico, on va se faire plaisir puisque mercredi soir a eu lieu une démo impressionnante d'un laboratoire qui a été... présenté, c'était il y a 8 mois de cela, par Xavier Niel, par Rodolphe Saadé et par Eric Schmidt. Xavier Niel, le patron de Free, bien évidemment. Rodolphe Saadé, qui est le patron de CMA-CGM, qui est d'ailleurs le nouveau propriétaire de la radio que vous êtes en train d'écouter et de la télé que vous êtes en train de regarder. Hein, voilà. Et aussi Eric Schmidt, l'ancien
patron de Google.
Patron de Google, bien évidemment. Trois personnes qui ont mis pas mal d'argent, 100 millions chacun, pour créer Qtay. Le premier fruit de cet investissement a été présenté donc mercredi soir. Anthony.
Exactement, donc ça s'appelle Mochi.
Ça s'appelle Mochi.
Donc c'est une IA vocale, on pourrait dire un assistant vocal qui va venir concurrencer Siri ou encore la dernière version de ChatGPT, GPT 4o, où on peut interagir à la voix. Mais alors avec une particularité, c'est une rapidité absolument dingue dans les réponses qu'elle va apporter. En gros, l'idée c'est d'avoir un modèle de langage qui permette d'avoir des discussions extrêmement fluides, extrêmement naturelles, exactement comme si on était en train de discuter avec un être humain. Et donc, dans les démonstrations qui ont été faites sur scène, et vous pouvez le tester aussi parce que c'est un outil qui est disponible en ligne. Moi, je me suis amusé avec, je crois, toi aussi, Damien.
Tout à fait.
Si vous allez sur le site de Qtay, il suffit de rejoindre la liste d'attente, mais en fait, on y a accès immédiatement.
C'est très
rapide. Et donc, tu te mets à discuter en langage naturel, en anglais, je le précise, parce que moi, j'ai commencé à parler avec elle en français et comprenait rien, enfin, elle me répondait n'importe quoi, donc je me disais, ah, c'est pas très au point ce machin. Mais non, en fait, c'est juste qu'elle parle en anglais. Et en fait, le truc, c'est qu'elle va te répondre avec un temps de latence qui est quasiment inexistant. Et ça va même plus loin que ça. On va peut-être écouter un petit extrait de cette démo. Donc, c'est un échange entre l'un des chercheurs de Qtay et Mochi. Écoutez.
I'm going to climb Mount Everest next month.
That's incredible. What kind of gear do you need to bring?
Well, that's what I wanted to talk about, actually. What do you think I need?
Well, you'll definitely need some climbing gear. You'll need climbing shoes, a harness, a belay plate, and a rope.
Alors, ça existe déjà. Tu disais, GPT-4o fait ça, etc., etc. Là, la nouveauté, c'est d'ailleurs, c'est presque gênant un peu. Hein.
C'est clair.
C'est le fait que l'IA vous coupe la parole.
Mais oui.
Avant que vous ayez posé la question.
Exactement. Et d'ailleurs, on entend le public qui rit un peu dans la salle. Et c'est vrai que c'est assez frappant. Moi, j'ai testé l'outil avant de regarder la démo. Et ça m'a frappé aussi parce que j'ai dit, voilà, mais j'ai même pas fini de poser ma question. Et l'IA a déjà répondu. Alors, c'est un peu désarçonnant au début, un peu frustrant aussi parce qu'on se dit, attends, c'est quoi ce truc-là ? Pourquoi
elle anticipe beaucoup finalement la question.
C'est
et
ça.
Et parfois, ça peut aussi entraîner un effet, je ne sais pas, parce qu'elle part sur un chemin et finalement, on a pris une autre direction. Donc,
ouais, exactement.
Ils sont partis du postulat que l'IA pouvait répondre à partir du moment où elle allait comprendre votre question.
C'est ça.
Même si vous ne l'aviez pas terminée.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'IA prédictive, exactement. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de formuler ta question, même si elle n'est pas terminée, l'IA est déjà, elle, en train de formuler sa réponse avec différentes options. Et puis, au moment où elle est à peu près certaine, bam, elle te balance sa phrase. Alors, tu as raison, des fois, ça tombe un peu à côté. Et je pense qu'il y a probablement un paramétrage à faire pour qu'elle soit un peu moins vivace, parce que là ça va vite énerver les gens, mais c'était aussi je pense pour l'effet démo, parce que c'est quand même mine de rien assez spectaculaire d'avoir cette IA qui anticipe ta demande, parce que globalement ça fonctionne bien et t'as même pas fini de poser ta question qu'elle donne la bonne réponse à la question que t'as pas fini de poser, et là c'est ce qu'on entend avec cet extrait là donc voilà, de ce point de vue là c'est assez impressionnant. C'est 160 millisecondes de temps de latence, donc c'est on n'a jamais vu ça dans l'industrie, hein. Visiblement, c'est l'équivalent d'un clignement d'œil, pour
alors,
te donner un exemple.
Ça veut dire que finalement, on est en train de construire notre ChatGPT français. Hein,
ouais, c'est ça.
Alors peut-être pas aussi évolué, il faut voir après la profondeur de ce truc-là. Ce qu'il y a de fou, et c'est là où il y a quand même une performance, c'est que ce sont quelques ingénieurs qui ont fait ça en 6 mois.
Ouais, c'est ça qui est hyper impressionnant. Donc, il faut savoir, hein, Qtail, c'est 8 chercheurs aujourd'hui, donc qui sont hyper capés. Hein, par contre, c'est des anciens, ils ont bossé dans la Silicon Valley, etc. Donc, c'est des mecs quand même assez solides. Mais bon, 8 gars qui, j'allais dire dans leur garage, non, ils sont un peu mieux que dans un garage, je pense. Mais en un peu plus de 6 mois, on réussit à concevoir un modèle qui n'a pas à rougir face à ChatGPT. Alors, si on entre dans les détails techniques, on n'est pas au même niveau de technicité, par exemple, sur le nombre de paramètres. C'est 7 milliards de paramètres, là où la dernière version de ChatGPT, ça doit être 175 milliards. Donc, c'est tout petit encore, de ce point de vue-là.
On est plus sur l'équivalent d'un Mistral, mais avec une vraie application qui sort et qui est grand public, parce que finalement, c'est ça qui va fasciner les gens, c'est d'être capable d'échanger avec l'IA. Si on reste sur un modèle théorique comme Mistral, qu'on peut intégrer de partout, qui est très bien, mais là, on va pouvoir dialoguer avec un robot. Donc, et un robot qui est made in France, même si on sait qu'il a été entraîné sur des données américaines. À un moment, on sait qu'on va pouvoir lui faire ingérer des données françaises, lui faire apprendre et pouvoir le convertir en fait à notre culture. Parce que le problème de l'IA, à chaque fois, on parle de l'IA américaine, on parle de l'IA chinoise ou d'autres modèles, c'est qu'ils n'ont pas notre culture, pas nos réflexes, et que là, on va avoir une IA qui nous ressemblera un petit peu plus.
Exactement. Il y a un enjeu aussi de souveraineté, je pense. Enfin, tu vois, données et aussi de souveraineté culturelle, parce que c'est ça, c'est un modèle de langage, c'est aussi un monde, quoi. C'est un monde, c'est une culture, c'est des références communes, et c'est important qu'on ait aussi des outils d'intelligence artificielle qui soient franco-français, même si, comme tu le disais, bon, pour l'instant, il est franco-français, mais il ne parle que anglais. Donc, on espère qu'il va y avoir une version francophone qui va arriver, mais c'est important qu'on ait ces outils-là qui commencent à arriver.
C'est ce qu'avait dit Xavier Niel d'ailleurs quand ils avaient créé Qtail. Hein.
Bien sûr.
C'était vraiment avoir une IA la française souveraine.
C'est ça.
Pour ne pas dépendre des géants américains.
Et c'est intéressant de voir qu'on a quand même plusieurs projets français qui sont, alors encore une fois, même si en termes de valorisation, aujourd'hui, on n'est pas au niveau d'un OpenAI, enfin, Mistral, c'est 6 milliards d'euros de valorisation, si on parle que du côté financier. Bon, Qtail, c'est un peu différent parce que c'est un laboratoire de recherche, mais on voit qu'il propose des choses quand même extrêmement intéressantes. On a Edge Company aussi qui a été lancé avec l'idée de concevoir une IA générale, donc qui pourrait dépasser les capacités de l'être humain et qui a fait des très belles levées de fonds en amorçage. Tout ça, c'est des projets français. Et quand même, c'est extrêmement intéressant de se dire qu'on a les cerveaux, ça on le savait déjà, on a les entrepreneurs derrière et on a des projets très concrets qui sont en train d'arriver. Parce que là, on a parlé de la vitesse qui est l'une des caractéristiques donc, de Mochi. La deuxième, et c'est aussi ce que fait GPT-4o, c'est le côté IA émotionnel qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que l'IA va être capable de détecter dans ta voix les émotions. Donc, est-ce que tu es énervé ? Est-ce que tu es content ? Et en fait, l'IA va s'adapter à ton émotion du moment. Et là, pour le coup, ça ouvre à la fois des perspectives dingues en termes d'utilisation. Donc, tu peux imaginer, je sais pas, un service après-vente avec un voicebot qui pourrait s'adapter à l'humeur du client. Tu vois,
un robot dans un EHPAD pour tenir compagnie aux gens, tout simplement.
Évidemment.
Avoir plein de problèmes aussi à un moment pour... pour prendre soin des personnes âgées. Donc on peut tout à fait imaginer un robot avec une part de pathos, certes, mais aussi qui est capable d'être très fonctionnel, d'accompagner les gens dans les étapes de la vie.
Exactement. Et avec tout, alors après, avec toutes les questions aussi que ça va poser, on en a déjà parlé régulièrement dans l'émission, hein, mais d'attachement et même de dépendance émotionnelle avec l'IA. Parce que quand tu as des IA qui peuvent comprendre tes émotions et ensuite simuler une émotion pour s'adapter à ce que tu es en train de dire, bah, tu vas en fait en faire à un moment ton confident, ton ami, ton... On sait qu'il y a des applications, bah, on parlera de la Chine, mais en Chine notamment, il y a des applications où tu peux te créer une amoureuse virtuelle en utilisant l'intelligence artificielle. Et il y a pas mal de gens qui tombent réellement amoureux, comme dans le film Heure qu'on cite souvent, où le personnage principal tombe amoureux de l'IA incarnée par Scarlett Johansson. Mais c'est en fait, on va y arriver avec des outils comme celui-ci, très clairement.
Hein. Alors, autre fonctionnalité qui a été présente, je vous invite à regarder sur YouTube d'ailleurs la démo hein, qui dure 45 minutes, c'est en anglais mais bon, c'est facilement compréhensible. Ils expliquent aussi que cette IA arrive à reproduire une voix humaine simplement en écoutant 7 secondes de cette voix. Ouais. Et il y a eu un petit exemple rigolo avec Xavier Niel justement, ils ont pris, je ne sais pas, peut-être une interview de Xavier Niel qui a duré 7 secondes, et après il lui faisait raconter des trucs sur l'IA, ouais. Qui était donc généré par Moshi, mais avec une voix et un ton qui était vraiment celui de Xavier Niel, c'est-à-dire que personne ne se rendait compte que ce n'était pas lui.
C'est dingue, non, mais c'est incroyable.
Et donc voilà, on avance très très vite, ouais. C'est à suivre, et franchement, cocorico, parce que voilà, c'est plutôt un bon signal qui est envoyé.
Voilà, franchement, la keynote, pour moi, ça envoyait en tout cas, c'était ouais. le résultat est quand même très spectaculaire pour une première démonstration, encore une fois.
Bien sûr, et après seulement 6 mois de travaux, quoi.
C'est ça.
Qui est impressionnant.
Donc non, vraiment, projet qu'on a envie de continuer à suivre.
Voilà, ça s'appelle Moshi. On reste dans l'IA avec Meta. Alors Meta qui, vous le savez, est à fond aussi dans l'IA, hein, avec son patron Yann LeCun qui est en France d'ailleurs, et qui est en train de creuser son sillon sur les lunettes connectées.
Ouais.
C'est intéressant parce que les Ray-Ban Meta deuxième génération aux États-Unis, vous pouvez faire une mise à jour et discuter avec elle, vous pointez du doigt quelque chose avec vos lunettes, et bien elle va comprendre ce que vous faites, elle va vous expliquer ce qui se passe. Enfin, donc vraiment, il y a l'IA qui arrive dans ces lunettes. Et ce qui est intéressant, c'est que Mark Zuckerberg prévoit déjà, Anthony, la suite.
Ouais, c'est ça. L'étape d'après, ce serait des lunettes. Alors, il a dit ça dans un podcast. Il n'a pas donné énormément de détails, mais il a parlé de lunettes holographiques. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ce serait des lunettes avec de la réalité augmentée, mais où les informations contextuelles qui s'affichent dans ton champ de vision, un peu comme les Google Glass à l'époque, se feraient sous forme d'hologramme. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'il entend par là, mais on peut imaginer des modélisations un peu 3D qui s'afficheraient en fait dans ton champ de vision.
Ça viendrait superposer les informations en plus, sauf en 3D, et pour par exemple expliquer ce qui se passe dans une scène, pour donner une direction, je pense qu'on
va faire ça. Oui, peut-être même une traduction, avoir des sous-titrages en direct.
Absolument, ouais, c'est ça. Et alors, il n'a pas donné beaucoup plus de précisions, il a juste dit que pour l'instant, le design n'était pas encore au point, mais que tous ceux qui les avaient essayés étaient éblouis, ébahis, je ne sais plus le terme exact, mais en tout cas, ça avait impressionné tout le monde, et que le prototype est... ils sont presque prêts à montrer le prototype. Donc, on peut imaginer que lors de la prochaine conférence Meta Connect qui a lieu à l'automne...
On pourrait voir ce prototype. Ça ne sortira pas tout de suite.
Non, clairement. Ça va prendre du temps. Mais c'est intéressant. Ce que je trouve très intéressant, c'est la stratégie de Meta sur les lunettes. Je la trouve très intelligente. Je pense qu'en fait, ils prennent Google et les Google Glass, qui ont été un énorme fail technologique il y a 10-15 ans, comme une sorte de contre-exemple. Ils se disent, on ne veut surtout pas faire ça. Les Google Glass, à l'époque, elles ont fait peur à tout le monde. Elles étaient pas... Ça ressemblait pas à des lunettes, c'était un peu effrayant. Moi, je me souviens d'avoir discuté à l'époque, on les avait testées, et la démonstratrice de Google, elle-même, qui bossait sur ses lunettes, me disait « Non, mais moi, je les porte pas dans la rue, hein, parce que les gens, ils me regardent, c'est pas possible. »
Bon, après, c'était une autre époque. Hein.
Oui, t'as raison, c'est vrai.
Il y a plus de 10 ans. Hein.
Mais Meta, ils ont eu une approche très intéressante. Ils se sont dit « On va s'allier avec un fabricant de lunettes, donc en l'occurrence Luxottica et Ray-Ban. »
Qui permet aussi de réduire les coûts et de réduire aussi les risques.
Tout à fait.
Et puis surtout, d'avoir une paire de lunettes normales. Quoi. Les Ray-Ban, c'est des chouettes lunettes.
Pas inaperçues.
Ah oui, moi, les Ray-Ban, alors la première génération, ils me les avaient envoyées, ils les ont toujours pas récupérées. Donc je les appelle s'ils veulent les récupérer. Elles sont à mon bureau. Mais du coup, il m'arrive de les utiliser parfois. Et en fait, je pense que je n'ai jamais utilisé la caméra embarquée. Enfin, si, pour la démo au début, quoi. Mais maintenant, je les utilise comme lunettes de soleil. Personne ne fait la différence. Et moi, je m'en sers comme des lunettes tout à fait normales. Donc voilà. Donc, ils sont partis de cette étape-là. Ils ont ajouté une brique technologique, donc la petite caméra qui a permis dans un premier temps de se filmer et de publier sur les réseaux sociaux. Bon, c'était le côté un peu gadget. Maintenant, il y a l'IA intégrée. Donc, on peut avoir des informations, demander la traduction d'un menu, des informations sur ce qui se passe autour de moi.
Alors, voilà, pas là, encore en Europe. Hein.
Non, pas encore en Europe, on n'y a pas le droit, mais aux États-Unis, c'est possible. Et ils se disent, voilà, petit à petit, les gens vont s'habituer. Et l'étape d'après, bah, ce sera peut-être d'ajouter de la réalité augmentée, des hologrammes, des choses qui sont peut-être un peu plus intrusives, un peu moins intuitives, mais qui vont arriver, tu vois, comme ça dans le temps. Je trouve que la stratégie est intéressante. On verra si elle est payante. Mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir voir et tester ces fameuses lunettes holographiques.
Tu les as testées, Damien ?
Oui, je les ai testées. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Bon, je n'ai pas pu tester les fonctionnalités d'IA parce qu'elles ne sont pas disponibles en Europe pour des raisons très simples qui sont le RGPD et toutes les directives européennes qui empêchent la collecte de données sur lesquelles vont reposer évidemment les lunettes. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. On voit qu'on va vers quelque chose qui va vraiment apporter des informations dans la vie quotidienne, ce qui n'était pas forcément le cas des lunettes à l'origine, qui étaient plutôt réservées aux créateurs de contenu et des gens qui achetaient quand même un modèle assez cher. C'est quand même dans les 400 euros, il me semble.
Quelque chose comme ça,
ouais. Ouais. Donc voilà, c'est resté assez gadget. Là, pour le coup, on va apporter un vrai service. Et je pense que c'est clairement la bonne direction. Et quand on fait ça avec Ray-Ban, ça permet aussi de crédibiliser son produit.
Bien sûr.
Moi, j'aime bien.
Et puis, je trouve que c'est plutôt malin pour Mark Zuckerberg de ne pas mettre tout toute cette thématique AR/VR dans le même panier. D'un côté, il y a les Quest, qui sont des masques, on va dire, traditionnels, qui progressent technologiquement. Et puis, les lunettes, qui sont beaucoup moins sophistiquées, certes. Mais qui
à un moment, les deux vont fusionner,
mais évidemment.
C'est clairement la direction.
Et je pense que c'est ça. C'était le rêve de Mark Zuckerberg, c'est que petit à petit, on arrive à fusionner tout ça, à mettre tous ces composants électroniques dans de moins en moins de place. Et pour que ça ressemble à des lunettes.
Clairement, j'ai l'impression que c'est une course. Bon, c'est évident, mais c'est une course entre l'Apple Vision Pro, qui va arriver aussi à ce format-là de lunettes, qui finalement c'est son destin. Et peut-être que Meta va y arriver plus vite, parce qu'ils auront un form factor, parce qu'ils auront des capacités industrielles, parce qu'ils auront déjà créé un marché. Et ils vont y arriver peut-être plus vite qu'Apple, malgré les moyens qu'Apple va mettre sur les 5 prochaines années.
Absolument. D'ailleurs, Apple, ils sont en train de... Ce qu'ils avaient comme projet de faire un Vision Pro 2, puis de travailler sur des lunettes à un peu plus long terme. Et visiblement, ils sont en train de squeezer certains modèles du Vision Pro qui étaient censés sortir pour se concentrer sur les lunettes. Donc je pense que c'est un projet à plus long terme, mais un projet qui est probablement beaucoup plus porteur parce que, évidemment, beaucoup moins intrusif. Tout le monde peut s'imaginer porter une paire de lunettes, que ce soit Meta, Apple, si ça ressemble à des lunettes normales, alors qu'avec un casque ou un masque de réalité virtuelle augmentée, mixte, ordinateur spatial, appelez ça comme vous voulez, c'est beaucoup moins évident pour le grand public.
Puisqu'on parle de lunettes, il y a aussi une autre marque qui a décidé de lancer des lunettes qui s'appelle Solo, et qui, elle, intègre ChatGPT.
Exactement. Bah, en fait, qui se positionne vraiment exactement en face de celles dont on vient de parler. Alors, pas les lunettes holographiques, hein, mais celles, les Ray-Ban, sont disponibles sur le marché. Et eux, alors donc, c'est une marque hongkongaise que moi, je ne connaissais pas. Hein. Je ne sais pas si tu les connaissais, toi, Solos. Ils existent depuis quelques années. Du coup, je me suis un petit peu renseigné. Ils font des lunettes connectées depuis quelques années qui s'appellent les Ergo. Là, donc, ce seraient les Ergo Vision, qui sont des lunettes de vue tout à fait normales en apparence, assez jolies également. Caméra embarquée, mais là, plutôt que d'avoir le modèle d'IA de Meta, évidemment, ce serait du ChatGPT. Alors, pas seulement d'ailleurs, il y aurait du ChatGPT, du Gemini et du Claude aussi. Donc voilà, ils ont pris toutes les écuries. Et avec l'idée, là encore, de pouvoir utiliser tout le potentiel de ChatGPT 4o, donc la version omnimodale, qui peut analyser ce qui se passe autour de toi. Et je ne sais pas, l'exemple classique qui avait été montré dans une démo par OpenAI, c'était j'ai un problème avec mon vélo, je ne sais pas, ma chaîne est cassée, par exemple. Je m'arrête, je ne sais pas ce qui se passe. Je regarde avec les lunettes, je dis bon, alors qu'est-ce qui se passe? Et les lunettes vont me dire là, ta chaîne est cassée, et te donner un petit tutoriel pas à pas sur comment la réparer. Tu vois, ça peut être, tu es dans une ville, elle va te guider vers les monuments les plus importants, tu es en train de faire ton footing, elle te donne ta vitesse. Enfin, voilà. On peut imaginer plein de cas d'usage. En plus du fait que, visiblement, leur spécialité, c'est qu'ils ont aussi intégré des petites fonctionnalités bien-être, du genre, tu as un capteur de posture à l'intérieur des lunettes, donc tu te fais enguirlander par tes lunettes parce que tu es un peu trop avachi ou tu ne te tiens pas droit, donc c'est les lunettes qui vont te le dire. Si tu ne bois pas suffisamment aussi.
Préparez-vous à vous faire engueuler par vos lunettes,
ouais, non, mais c'est ça. C'est ça le futur aussi qu'on nous prépare, tu vois, c'est que tu vas avoir aussi dans ces objets.
Tu te fais engueuler par ta montre.
Oh là là, mais ouais, mais on parle pas. Donc du coup, si en plus les lunettes te disent non, mais tiens-toi droit, bois de l'eau, tu vois, il y a un moment, ça va, laissez-moi être tranquille. Bon, tout ça sera paramétrable, hein, évidemment.
Oui, bien sûr. Mais tout ça repose sur, évidemment, la voix. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Il faut voir si la voix va devenir le nouveau moyen de communication avec les machines, finalement.
La voix va aussi peut-être émerger comme une alternative au tout écran. On passe déjà nos journées sur les écrans. À un moment, on a peut-être envie de couper. La voix, ça permet de s'isoler un peu plus, tout en ayant en fait, accès aux fonctionnalités qu'on peut avoir sur un téléphone, sur une tablette. Ça peut nous libérer, finalement, la voix.
Absolument, et je suis complètement d'accord avec toi. Et y a derrière, en toile de fond, si on peut dire, cette question alors, qu'on pose depuis le début de la saison, mais celle du form factor idéal pour embarquer l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est le téléphone ? C'est pas évident. Peut-être que oui, mais on voit bien qu'il y a eu un certain nombre de tentatives, alors qui n'ont pas forcément fonctionné jusqu'ici. Hein, le fameux AI Pin, la petite broche connectée, bon, qui n'a pas du tout marché. Le Rabbit, dont on a beaucoup parlé aussi. Les lunettes, c'est un form factor intéressant, parce que pour le coup, c'est
Ou les écouteurs.
Ou les écouteurs,
ou un combo entre les deux.
Ouais. C'est ça.
On parlera des écouteurs tout à l'heure, d'ailleurs.
Il y a l'IA aussi, absolument.
Parce que les AirPods peuvent être aussi, on va dire, une piste privilégiée pour Apple. Mais ne brûlons pas les étapes, on va en parler dans un instant. J'aimerais qu'on évoque maintenant ton voyage en Chine, mon cher Damien.
Alors oui.
Tu allais donc
à Shenzhen.
À Shenzhen.
Dans le cœur industriel de la Chine. Le temple, la Mecque de l'électronique, même. Et on allait visiter à la fois le siège de Huawei, donc première entreprise privée de Chine, très très gros acteur de la tech dans le monde. Et ils nous ont montré donc ce que vous pouvez voir à l'écran, une magnifique voiture autonome qui est un partenariat avec un autre constructeur automobile chinois. Et en fait, ils ont fait toute la partie logicielle. Huawei est en train de se réinventer. Et ils ont fait, donc là, ce que vous pouvez voir en action, c'est de l'Harmony OS. Ce qu'on peut retrouver, c'est l'OS qu'on peut retrouver sur les téléphones. Ouais. Et en plus de ça, ils ont intégré un assistant vocal. Donc, on peut piloter pas mal de fonctions de la voiture, comme ouvrir les fenêtres, lancer la clim, lancer un massage sur les sièges. Uniquement la voix. Il y a une espèce de petite ChatGPT local. Je vais vous épargner mon chinois, c'est pas encore ça, mais j'ai pu, en répétant un petit peu, ouvrir les fenêtres.
Il a demandé un massage et la voiture a pilé.
Oui, c'est ça.
Non, c'est pas le bon.
Pour l'instant, arrêtez. Je ne comprends que le chinois.
Ça ne comprend que le chinois, mais comme vous pouvez le voir aussi, c'est capable de comprendre l'anglais. Il suffit juste de le customiser un petit peu. C'est quand même une voiture qui a vocation à rester sur le marché chinois, mais il pourrait avoir à un moment des ambitions d'aller sur d'autres marchés, comme peuvent l'avoir déjà les constructeurs automobiles chinois. Et c'est facile à intégrer, en fait, parce que c'est une partie uniquement logicielle. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle voiture. Ça pourrait être en marque blanche sur une voiture européenne et ça marcherait parfaitement. Et c'est capable de tout faire. Non seulement c'est la voiture autonome, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de toucher le volant. On lui dit à la voiture, amène-moi là. Elle va nous conduire tranquillement. Elle va pouvoir se garer toute seule et vous n'avez plus rien à faire.
Et ça, sur les tests que tu as fait, c'était comment dire, sur un circuit organisé ou c'était sur les routes?
C'était dans une ville de Shenzhen où on a pu croiser et des piétons et des gens qui traversent n'importe comment. D'accord. Et des gens à scooter qui font, comme à Paris, à peu près n'importe quoi, qui prennent aussi les pistes cyclables. Donc c'était vraiment en situation, on n'est pas sur un circuit fermé, on n'est pas dans un exercice purement théorique, là on est vraiment dans la réalité. Et c'est vrai qu'elle a prouvé des capacités à freiner, même à piler quand les gens forcent le passage, qui étaient assez impressionnantes.
Ouais. Moi ce que je trouve fascinant de chez Huawei, c'est leur résilience finalement, et leur pouvoir à rebondir, même quand ils ont vécu les pires choses, les pires bannissements. On ne va pas vous refaire l'histoire 2019, le ban Android, Google, le ban des puces, etc., etc. Alors certes, ils ont souffert, mais ils ont su rebondir et créer de nouveaux marchés. Il y a l'automobile, mais ils sont aussi sur les objets connectés. Tout à l'heure, tu vas nous parler de la robotique.
Tout à fait.
Même sur les GPU.
Ils commencent à avoir leurs propres puces. Ils commencent aussi à avoir leur système d'intelligence artificielle qu'ils peuvent intégrer de partout, notamment dans la consommation électrique. Je vais installer une borne électrique chez moi, mais je voudrais qu'elle fonctionne uniquement sur les meilleures heures. On va pouvoir tout guider avec l'intelligence artificielle. Ils arrivent à l'intégrer de partout. Parce que tout simplement aussi, ils ont des milliers d'ingénieurs et qui, à un moment, on leur a dit arrêtez de faire des téléphones ou faites-en un peu moins ou uniquement pour le marché chinois, concentrez-vous sur d'autres choses. Et ils se sont lancés dans des projets comme ça. Ouais. Ils ont les moyens de les financer aussi. Ils ont une espèce de rente qui est dans les télécoms. Ils en font depuis 15 ans, ils ont gagné énormément d'argent. Il y a encore des antennes Huawei en France et partout dans le monde. Ils ont les moyens, en fait, de leurs ambitions, tout simplement.
Ouais.
Ouais, c'est assez énorme. On en parlait un peu la semaine dernière de Huawei, mais moi aussi je suis assez frappé par ça. Le côté tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, c'est vraiment le ban des États-Unis qui a été un coup porté à cette entreprise et dont on pensait qu'il serait, alors peut-être pas fatal, mais en tout cas on se disait, bon, sur les téléphones, ils sont morts. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils étaient quand même en voie de devenir le numéro un mondial.
C'est vrai.
Et finalement, on se retrouve avec une entreprise qui aujourd'hui a dit, vous voulez plus de nous, c'est pas grave, on va tout faire tout seul, on va faire nos puces, on va faire tous nos semi-conducteurs, on va lancer notre système d'exploitation, on verra ce que ça donne. Donc, Harmony OS. Alors c'est vrai que Harmony OS hors de la Chine, bon, pas grand monde l'utilise pour l'instant.
Et mais même les fabricants chinois n'ont pas adopté pour autant.
Voilà, c'est
ça. Il n'y a que Huawei qui l'utilise, mais c'est, ils arrivent à le décliner en fait dans différents objets, dans les montres, c'est de l'Harmony OS, les montres qui vendent en France sans problème. Et dans cette voiture-là, par exemple, c'est de l'Harmony OS. Ils peuvent l'intégrer dans des robots, dans tellement en fait
ouais, et c'est ça,
de débouchés qui sont sereins.
Et en fait, dans Tech & Co, je reçois un spécialiste de tout ça régulièrement qui s'appelle Yves Maître, qui est passionnant et que je vous invite à découvrir dans Tech & Co dans le débrief, et qui nous expliquait que ce Harmony OS était une petite révolution en termes de soft qui pouvait s'installer du plus petit objet connecté au plus grand. Et même si le plus petit objet connecté a très peu d'intelligence, il va pouvoir discuter avec l'objet plus grand.
Ouais.
Et ça ouvre des perspectives, et c'est d'ailleurs une philosophie de l'OS qui est propre à Huawei. Huawei qui abandonne Android, hein, d'ailleurs, hein, au passage, hein, ouais. Puisque rappelons que les précédentes versions d'Harmony OS étaient un Android customisé à la chinoise. Là, ils veulent abandonner Android et lancer leur propre système d'exploitation pour concurrencer iOS et Android.
Absolument.
Et avec cette philosophie de créer un écosystème. Et automatiquement, n'importe quel objet avec Harmony OS, du plus petit au plus grand, pourrait communiquer entre eux.
Après, ils ont encore un problème de marque, entre guillemets. C'est-à-dire que vraiment, hors de Chine, aujourd'hui, Harmony OS, absolument c'est personne clair. Ne connaît, à c'est part sûr. Les technophiles les plus avertis. Et en Occident, je veux dire, pas grand monde. Oui, les consommateurs, déjà, sont souvent paumés entre « Oh là là, il faut que je passe de iOS à Android ». C'est déjà toute une aventure. Si tu as déjà essayé de convaincre quelqu'un de switcher d'un système d'opération à l'autre, si on commence à t'ajouter du Harmony, même si, par ailleurs, leurs appareils ont vraiment des arguments commerciaux, y compris les appareils photo, enfin, leurs téléphones sont vraiment ultra quali. Mais franchement, je pense qu'en Occident, il n'y a pas grand monde qui est prêt à switcher d'opérating
système. La stratégie aussi, c'est de faire oublier finalement qu'il y a Harmony OS derrière. C'est de diluer tout ça et de se dire que finalement le truc marche, j'oublie complètement, même. Je suis même pas sûr au démarrage de la voiture qu'on voit Harmony OS, mais ils vont peut-être aussi essayer de faire oublier le fait que ce soit leur logiciel à eux, et tant que ça marche, ils le mettront limite en marque blanche et ça ira très bien.
Ouais, c'est clair.
Alors ce qui est intéressant, c'est que tu as vu ça, mais tu as vu aussi des robots.
Oui.
Parce que Huawei fabrique des robots aussi.
Huawei ne fabrique pas encore des robots, mais ils fabriquent un LLM, donc un modèle d'intelligence artificielle qui est très évolué, qui est capable en fait d'être intégré dans n'importe quel équipement électronique, avec une certaine puissance de calcul évidemment, notamment des robots, donc des robots qui vont être capables de bosser dans une usine, de faire des choses qui sont encore à la main. C'est étonnant parfois quand on visite une usine en Chine, on voit que la dernière partie qui est l'emballage des téléphones, tout est fait par des robots sinon dans les téléphones, mais l'emballage qui est très soigneux est fait encore à la main par des employés.
Et parce que le robot n'arrive pas à le faire ça
encore. Mais justement avec du LLM qui est capable d'être multimodal, ils vont être capables de le faire très rapidement et de manière plus efficace que les humains, qui est quand même le but.
Waouh. Incroyable. Et là, quand tu parles de robots, c'est quoi ? C'est des robots c'est genre boîte de conserve ou c'est des humanoïdes
C'est à la croisée entre un humanoïde et un robot un peu plus industriel, un peu plus boîte de décoffrage, mais c'est finalement la fonction qu'on lui attribue qui est le plus important. Tout ça, il est capable de plier une boîte, de plier quelque chose sans l'écraser, parce que c'est quand même le plus important.
Oui, parce que si tu plies le téléphone, et tu le mets dans la boîte et tu le reçois comme ça.
C'est embêtant.
Ça,
ouais, c'est
un gros problème de qualité à la fin.
Ouais. C'est clair. Là, je posais la question parce que de plus en plus, on voit, tu sais. Ces robots humanoïdes sont développés, Figure AI et d'autres, même Optimus d'ailleurs, celui de Tesla, avec l'ambition de travailler aussi dans les usines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les usines, tu as effectivement ces systèmes complètement automatisés avec des bras robotiques qui ressemblent plus à soit des sortes d'hydres, de pieuvres ou de serpents. Mais tu vas aussi avoir des robots qui sont capables de regarder comment font les êtres humains, d'imiter leurs gestes et de faire finalement ce que ferait un ouvrier spécialisé sur plein de tâches. Donc pourquoi pas aussi le fait de prendre le téléphone, de le mettre dans la boîte et de fermer la boîte. Donc je pense que on va avoir une sorte de mix en fait dans les années qui viennent. Ça va être assez intéressant, hein, visiter les usines dans 5 ou 10 ans. Là je pense que ce sera un spectacle assez extraordinaire aussi quoi.
Déjà nous l'année dernière on avait visité la toute dernière usine Amazon.
Ah mais oui, c'est vrai.
Il y avait des robots humanoïdes qui transportaient des colis et les portaient d'un point A à un point B pour éviter en fait la pénibilité de certaines tâches pour les humains.
C'est
fait.
Ça. Ouais.
C'est très intéressant.
Ouais, c'est plus juste parce que chez Amazon, je me souviens qu'à une époque, c'était genre des robots qui portaient les étagères. Oui, en fait. Oui. C'est une sorte de gros robot aspirateur là, et puis tu avais les étagères qui bougeaient.
Là,
en fait.
On a vu des robots avec des bras et des jambes qui allaient se baisser pour ramasser en fait des colis, pour les déplacer et les apporter de l'autre côté du centre de tri quoi.
Dingue.
C'est assez impressionnant.
Ma conviction personnelle, c'est qu'il pour l'instant, ils sont encore dans le stade où ils réduisent les capacités des robots pour ne pas faire trop peur aux humains. Parce qu'on se dit qu'on va être remplacé très rapidement, je pense que ça va arriver beaucoup plus vite qu'on le pense.
Ah oui, bien sûr. C'est sûr.
C'était tout le discours d'Elon Musk, hein, encore une fois, avec Optimus plus l'IA, où il explique qu'il va falloir que nous, les humains, on repense le sens de notre vie, parce que d'ici quelques années, exactement comme tu le disais, probablement beaucoup plus vite qu'on ne le croit, en fait, ils pourront faire absolument toutes les tâches en fait, qu'on peut réaliser, sachant que simplement en nous regardant, certains de ces robots sont capables de nous imiter et qu'en plus de ça, une fois qu'ils ont appris la tâche, ils peuvent envoyer à tous leurs copains robots « j'ai appris cette tâche-là ». Cette notion d'apprentissage en essaim, comme ils appellent ça, qui accélère encore le mouvement. Donc ouais, ça va très très vite. Et donc il y a vraiment une question, y compris philosophique, qui va se poser à nous sur qu'est-ce qu'on fait de nos vies maintenant que en fait, la machine peut nous débarrasser de absolument toutes les tâches un peu fastidieuse, quoi.
En tout cas, ton récit nous donne envie d'y aller. Clairement. Et d'aller jeter un œil là-bas. Pour terminer cette première partie de quoi je me mêle, si on parlait des AirPods, voilà, sans doute les écouteurs intra-auriculaires les plus vendus dans le monde.
L'objet connecté le plus vendu dans le monde.
Voilà, enfin, franchement, c'est pas étonnant. Hein. C'est un vrai succès et qui évolue d'ailleurs hein, régulièrement. Et là, il y a quelques petites fuites, ouais. Anthony, concernant une future génération d'AirPods qui pourrait intégrer, écoutez bien, des caméras.
Ouais.
Ça, c'est fou, ça.
Absolument. Caméra infrarouge. Alors,
pour
c'est,
filmer ton oreille, le creux de ton oreille, c'est ça,
ça pour voir si c'est propre.
Ah oui.
Après, ça t'envoie une alerte. Non, là, coton-tige, là, obligatoire, c'est pas possible.
Tu te fais engueuler maintenant par les AirPods.
Oui, aussi, bah oui, sur l'hygiène.
Après les lunettes, après la montre, c'est les AirPods.
Ça va être compliqué. Hein. Non, alors,
vous
ça va être
un enfer.
Ça va devenir un peu chaud, ouais. Non, mais alors, plus sérieusement, donc, alors, c'est des informations de Ming-Chi Kuo, donc, qu'on cite assez régulièrement, oui. Qui est donc un analyste donc, qui est en contact en général avec les fabricants de composants, les sous-traitants d'Apple, donc assez bien renseigné.
Voilà, rien de concret. Hein, enfin,
non, il n'y a pas eu d'annonce. Rumeur, hein. Non, absolument.
Et on parle de 2026.
On parle de 2026, plus, ouais. On parle sur vraiment des générations à venir, mais qui intégreraient des petites caméras. Alors, pour plusieurs choses, nous dit-on. La première chose, c'est que ces caméras permettraient de filmer, alors non pas l'intérieur de ton oreille, mais de voir le sens dans lequel ta tête se dirige et en fait ça permettrait de diriger le son de manière plus optimale quand tu te déplaces quoi, tout simplement, donc il y aurait une notion d'augmentation de la qualité du son. Mais la deuxième chose, évidemment on ne peut pas ne pas y penser, c'est l'intégration aussi de l'intelligence artificielle, exactement comme on le disait pour les lunettes. Ça pourrait être tout à fait le même genre de fonctionnalité, c'est-à-dire des AirPods qui pourraient analyser l'environnement autour de moi et répondre à un certain nombre de questions sur la ville dans laquelle je me trouve, me guider avec le GPS, traduire une conversation ou un menu en temps réel, etc., etc., etc. Donc là aussi, on peut imaginer tout un tas de cas d'usage. Ça va être assez intéressant à observer, ça aussi.
Tu y crois, toi, cette histoire?
Moi, j'y crois, surtout si c'est des caméras infrarouges. Ça va nous servir aussi à se repérer dans l'espace, mais pas comme un GPS. Ça serait dans un plus petit espace, savoir ce qu'on a exactement autour de soi, et ça serait extrêmement important. Et je pense pour le coup que ça peut vraiment apporter quelque chose, par exemple, non seulement pour l'audio, mais pour se repérer quand, par exemple, on a un handicap visuel. Il y a plein de fonctionnalités qu'on peut imaginer et qui sont vraiment apportées. Ouais. C'est un petit composant, finalement, ça ne coûte pas très très cher. Il y a très peu de puissance de calcul qu'on peut peut-être intégrer dans un objet aussi petit.
Alors, t'as raison, le côté handicap, j'y avais pas pensé, mais c'est un très bon point aussi. Parce que d'autant qu'on sait qu'Apple, alors, ils ont déposé des brevets, ou on sait qu'ils travaillent sur le sujet, mais en tout cas, il y avait eu pas mal de rumeurs sur le fait qu'ils voulaient intégrer dans les AirPods un certain nombre de fonctionnalités à la fois de bien-être et santé, c'est-à-dire bien-être, c'était là aussi des capteurs de posture pour te dire si tu te tenais droit, etc. Et ça peut être aussi des aides auditives embarquées. On sait maintenant que les écouteurs, les AirPods, sont souvent meilleurs que des aides auditives basses ou moyennes de gamme. Et ils voulaient ajouter encore des fonctionnalités pour les personnes malentendantes, pour en fait transformer les AirPods carrément en aides auditives à proprement parler, quoi.
Et même pour l'audio spatial, pour l'instant, l'audio spatial, ça se passe par les micros. Là, on aura quelque chose d'encore plus précis parce qu'on serait sur l'infrarouge, on arriverait vraiment à se situer, savoir de quelle direction on regarde.
Ouais, absolument.
Ça peut aussi améliorer la qualité de l'audio, tout simplement.
Ouais.
Et puis, il y a aussi la possibilité, puisque en fait, les AirPods vont dans le creux de l'oreille, de mettre des petits capteurs pour nous monitorer votre santé, comme le fait l'Apple Watch. Hein. Par exemple, votre fréquence cardiaque, pourquoi pas la tension artérielle, la température. Je vous rappelle que pour mesurer la température, on peut rentrer un thermomètre dans l'oreille.
Tout à fait.
Donc, il y a plein de choses qui... Enfin, voilà, ça peut être le cheval de Troie de plein de fonctionnalités, en fait, ces AirPods.
D'autant qu'Apple a vraiment beaucoup d'ambition dans le domaine de la santé. Hein. On le sait, ils veulent être maintenant... Enfin, c'était le cheval de bataille de Tim Cook de dire, moi, je veux qu'on se souvienne d'Apple comme une entreprise de santé. Il veut que ce soit une partie de son héritage, en tout cas, et on sent qu'il veut aller dans cette direction-là. Donc, clairement, ce n'est pas du tout délirant, ces rumeurs autour des caméras dans les AirPods. Et ça va être intéressant aussi à observer. Ouais. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont les présenter. Encore une fois, on ne va pas vous
prendre
un truc.
On verra, bien sûr, peut-être 2026.
Ouais, c'est ça.
On verra bien, les amis. Bon, bah écoutez, merci à tous les deux. C'était top, cette première partie de Quoi je me mail. Petit bonus qui vous attend juste après notre rendez-vous Fnac, toujours avec Anthony et Damien. Anthony, tu vas nous parler d'une nouvelle technologie de batterie qui rendrait jusqu'à 100 fois plus efficace nos smartphones.
Ouais, c'est ça.
Incroyable. Bon, ça sera le module bonus que vous retrouvez exclusivement en audio sur le podcast de Quoi je me mail. Merci beaucoup Damien.
Merci.
Et tu resteras avec nous pour le module bonus, hein,
avec
bien
grand
sûr.
Plaisir, oui.
Et merci Anthony.
À tout à l'heure.
Et vous restez avec nous. Tout de suite, on enchaîne avec notre deuxième partie, ce sera notre rendez-vous, la Bofnac, avec des conseils pour bien choisir votre enceinte nomade pour cet été. À tout de suite.
De Quoi je me mail sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Allez, notre deuxième partie de ce De quoi je me mêle. En plus, il y a de saison, parce que voilà, on va se faire plaisir. Peut-être avez-vous, à l'approche des vacances, du soleil, de l'été, bien de vous offrir, pourquoi pas, une nouvelle enceinte nomade. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a énormément de choix. Autant, ben, justement, ne pas se tromper. On va en parler maintenant, un petit quart d'heure pour faire le point avec tout ça. Et Lionel Costa qui est là. Salut Lionel.
Bonjour François.
Responsable du labo Fnac, vous le savez. Et Lionel a étudié à fond le dossier. Hein, sur les enceintes nomades.
Pas moi tout seul, évidemment, il y a une équipe derrière.
Bien sûr, tous les ingénieurs, évidemment, du labo. Parce que c'est un segment, est-ce que ça marche, tiens? Est-ce que la Fnac vend beaucoup de ce type d'enceintes?
Oui, ça marche très très bien. Et justement, ça marche peut-être un peu trop bien, parce que quelquefois, des gens vont acheter ça parce que c'est des prix un petit peu inférieurs. Or, de quoi on parle, hein, les enceintes nomades, on les qualifie, et on donne la typologie, c'est les enceintes de moins d'un kilo. Qui font à peu près moins de 2 litres hein, de volume. Et c'est des enceintes qu'on souhaite emporter partout. Et quelquefois, les gens vont confondre une enceinte portable comme une enceinte domestique. En termes de qualité de son, ce n'est pas les mêmes choses et ce n'est pas non plus les mêmes fonctions, les mêmes usages. Donc, ça marche très, très bien. Donc, en nombre de volumes, en volume, c'est énorme.
Ouais.
En chiffre d'affaires, évidemment, ça représente moins que les gros mastodontes du son. Mais ça marche très très bien et on est hyper vigilant aussi sur la durabilité. C'est tout bête, hein, mais plus on achète de petits composants comme ça électroniques et plus on risque de générer du déchet électronique. Donc on met l'indice de réparabilité aussi sur ces produits-là pour dire bah, c'est pas parce qu'on n'est pas trop cher et petit que ça justifie d'être irréparable et de créer du déchet électronique.
Alors évidemment, tout à l'heure, tu nous donneras ta sélection hein, avec à peu près tous les prix parce que c'est vrai que on peut avoir des petits budgets hein, aussi pour ce type d'enceinte. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu le disais, il ne faut pas s'attendre déjà à une qualité de son d'une enceinte, on va dire, plus...
Volumineuse.
Voilà, plus volumineuse et qui va rester dans le salon, par exemple. C'est pas le même usage, c'est ça ?
Exactement, et c'est vraiment... Il y a des réalités physiques. Hein. Le son, encore une fois, c'est la propagation d'air. Moins il y a de volume et moins il y a donc d'air à déplacer. Donc les graves, évidemment, vont se déplacer. On aura moins de puissance. Et en plus de ça, les enceintes nomades, elles ont plein d'éléments physiques à l'intérieur pour les rendre plus solides, plus robustes. Une enceinte, bah, c'est donc un aimant avec une membrane. Et la membrane, si elle est trop légère, trop fragile, il suffit du moindre choc, elle se perce, elle s'abîme, elle se casse. Les enceintes nomades ont des membranes beaucoup plus solides. Mm-hmm. Mais pour arriver à rendre une qualité de son équivalente à du papier cartonné qui est vraiment adapté pour de la hi-fi, c'est un arbitrage un peu compliqué. Donc, on n'a pas la même qualité de son.
Voilà.
On n'est pas sur de la qualité téléphone, on est quand même sur des enceintes. Mais il ne faut pas s'attendre à du home cinéma génialissime. Voilà.
Donc, on n'est pas dans de la hi-fi, mais ce n'est pas le but recherché. L'idée, c'est on est en camping, dans un endroit sympa, dans le jardin,
ou à la plage,
à côté de la piscine, au barbecue,
tu le disais. Oui, exactement. Voilà, c'est du barbecue, on se le pose. Ce n'est pas fait pour sonoriser une pièce ou un studio
non,
global.
Non,
c'est être à côté de soi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certaines des enceintes nomades sont vendues avec la fonction main libre. C'est tout simple. Hein. il suffit qu'il mette un micro dessus et en fait on appare son téléphone dessus et puis on peut parler avec son enceinte, etc. Exactement.
Voilà, tout en respectant bien évidemment votre environnement. Si vous êtes à la plage et qu'il y a 150 personnes autour, bien évidemment, vaut mieux mettre son casque ou ses écouteurs.
Exactement.
Hein. Quelles sont les fonctionnalités obligatoires aujourd'hui sur une enceinte comme ça ?
Alors, les enceintes nomades, il y a un truc obligatoire. Alors, évidemment, Bluetooth, 100%. Il y a même pas.
De toute façon, elles sont toutes Bluetooth.
C'est ça. Il existe peut-être encore mais nous, on ne les vend pas, des enceintes avec juste prise casque. Donc, c'est peut-être moins cher, mais il faut se trimballer le fil.
Ouais,
voilà. Voilà, exactement. Une des fonctions, un des tips à connaître, c'est vraiment la résistance à l'eau et aux projections. En fait, ce qu'on appelle le IPX quelque chose. On a des produits qui peuvent aller jusqu'à IP67. C'est-à-dire que c'est des produits qui peuvent aller sous l'eau pendant 30 minutes et elles fonctionnent encore. Si on descend un petit peu, si on est sur du IP56 par exemple, là, on va pouvoir supporter les projections d'eau, les éclaboussures de piscine. Moi, je suis très été, eau. Hein.
Ouais.
Pour moi, c'est plage, piscine.
Non, mais t'as raison.
et donc, les éclaboussures d'eau, les choses comme ça, on n'est pas inquiet à se dire, oh là là, elle a pris l'eau, qu'est-ce que je vais faire avec ? Non, elles sont prévues pour ça. Elles sont ce qu'on pourrait appeler tropicalisées. C'est vraiment, elles sont faites pour
le
ça.
Le sable aussi, qui peut être un ennemi. Hein, de ce
exactement. Il y a une autre fonction aussi qui existe sur certaines enceintes. Alors, ce n'est pas toutes, c'est la fonction partie. En fait, c'est la fonction d'appairer plusieurs enceintes. Si jamais on a deux modèles identiques, on peut les appairer pour se retrouver avec un vrai effet stéréo.
Ah, c'est cool. Voilà. C'est cool. Et il y a même, je crois, des marques qui peuvent appairer plein d'enceintes.
Ouais, exactement.
C'est rigolo, ça.
Et au départ, ça n'existait pas. Hein. Au départ, l'écosystème était très fermé entre chaque marque. Et il y a même des outils externes aux marques qui permettent de faire ça. Des petits boîtiers qui disent, bon, tu t'appelles Bose, Sony, JBL ou autre, je te connecte et on a un ensemble comme ça. Mmh. Alors, au niveau équilibre des sons, la balance, elle n'est peut-être pas très bonne. Hein. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des enceintes qui sont très efficaces dans les médiums, d'autres qui sont trop efficaces dans les graves. Donc, on va avoir un stéréo gauche-droite un peu bizarre. Ça peut créer
de la peine. Mais... c'est pour, à la limite, là, c'est pour vraiment créer une ambiance un peu particulière. C'est ça. Hein.
Exactement. Et franchement, enfin, moi, des gens que je rencontre qui consomment ce genre de produit, moi, je suis un petit client de ça. C'est vraiment de l'occasionnel. Mm-hmm. Personne ne se plaint de « Oh là là, le son, il est nul ». Non, non. Les gens se satisfont vraiment parce que ça reste quand même quelque chose d'agréable, mais d'occasionnel.
Est-ce que certaines peuvent avoir des fonctions de power bank, par exemple ?
Alors, oui, bien sûr. En fait, pratiquement toutes. Alors là, tu me poses une colle sur lesquelles le font ou lesquelles ne le font pas, mais pratiquement toutes, si on branche son téléphone sur le port USB des enceintes, il y a un retour électrique qui fait que ça va recharger
un peu ton téléphone. Exactement. C'est sympa parce que ça fait en fait un double usage.
Exactement. Ça peut, alors évidemment, on consomme la batterie de l'enceinte, mais il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une enceinte qui manque d'autonomie, je vais en parler juste après, et on peut connecter des powerbanks à l'enceinte.
D'accord.
Ce qui fait qu'une enceinte toute petite, elle manque d'autonomie, on a pour assurer le coup une powerbank qu'on peut utiliser pour le téléphone, pour l'ordinateur, pour la tablette ou pour l'enceinte. L'autonomie est élément extrêmement important. Et là encore, nous, la Bofnac, on essaie de jouer notre rôle de vulgarisateur, mais aussi de vérificateur de quelle est l'autonomie réelle du produit.
Oui, dans des usages, on va dire, normaux.
Exactement. Et c'est quand même compliqué parce que c'est vrai que si je ne fais... Alors, je vais être un peu stéréotypé et caricatural, mais si jamais je ne fais que du boum-boum avec mon enceinte, les graves vont consommer plus d'énergie que l'aigu. Donc, c'est vrai
et
que...
le volume sonore aussi.
Et le volume sonore. Et beaucoup de constructeurs, quand ils font une annonce d'autonomie, c'est jusqu'à 25 heures d'autonomie ou 30 heures d'autonomie. Mais en fait, le volume, on ne le sait pas du tout. Et si c'est très, très bas, bon...
Forcément, ça peut durer plus longtemps.
Exactement. Et ce n'est pas équitable dans la comparaison. Ouais. Alors que nous testons toutes les enceintes de la même manière.
Alors, justement, le top produit du Labo Fnac.
Alors, une marque très connue dans ce segment-là, vraiment, elle est vraiment... tu parlais du marché, c'est une marque leader dans ce segment-là, c'est JBL. Mm-hmm. La JBL Charge Essential 2, elle n'obtient que 3 étoiles. Pourquoi ? Parce qu'on la met dans le référentiel d'une enceinte globale, en fait. Mais ça reste quand même la meilleure enceinte qui a la qualité de son, qui a la puissance sonore, qui a la distorsion la plus faible sur toute cette catégorie-là. Elle est donc à 3 étoiles. Elle est vendue en ce moment à peu près à 160 euros. Elle est avec une autonomie mesuré à plus de 16h30.
Ah ouais, c'est
16h30 d'autonomie pour un petit format, c'est quand même vraiment pas mal. La deuxième, c'est une marque hollandaise, Fresh and Rebel.
Alors que je ne connais pas perso. Alors,
je la connais pas spécialement celle-là, mais elle commence à arriver dans nos rayons. Donc la Fresh and Rebel Soul, 3 étoiles également. Cette fois, on passe donc de 160€ à 90€. Donc on est pratiquement moitié moins. Ouais. Excellent produit qui fait une puissance de 91 décibels. Mais par contre, l'autonomie à 10 heures. Voilà. On a une autonomie un peu plus faible. Ça tient une journée, en fait.
Ouais, mais c'est cool parce que si tu n'as pas beaucoup de budget, tu peux quand même avoir un truc correct. Ouais.
Ah, exactement. Et vraiment, au niveau design, on est pas mal. Pour les gens qui voient les vidéos, vraiment, les designs sont vraiment recherchés pour être plutôt jolis et que ça soit plutôt agréable. La troisième de notre sélection, c'est la Bose Soundlink Flex. Alors Bose, à titre personnel, j'avais une Bose Soundlink il y a des années de ça et je trouve qu'ils sont très, très forts. En rapport puissance, volume, c'est excellent.
C'est vrai qu'ils maîtrisent les basses et on va dire la restitution du son qui est incroyable.
Sur des petits volumes en plus, c'est vraiment pas évident. Donc elle obtient également 3 étoiles, elle est à 130€ et une autonomie de 15h30.
Pas mal.
C'est vraiment des petits bijoux, ces trois-là que je conseille. C'est vraiment selon les budgets, selon les préférences aussi du design. La Fresh and Rebel et la Bose Soundlink ont un microphone qui permet de faire le main libre ou utiliser un assistant vocal. La JBL Charge, non. Donc ça, c'est un petit élément. Si on se dit, tiens, le main libre, c'est important, bah là, il faudrait peut-être choisir entre la Fresh and Rebel ou la Bose.
Très bien. Alors moi, j'ai testé, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, la nouvelle Sonos Roam 2.
Ouais.
Je ne sais pas si tu as eu l'occasion. Ben, ouais. Alors, elle vient juste de sortir, donc je ne pense pas que vous l'ayez...
On l'a testé déjà.
Ah, vous l'avez déjà testé ?
On l'a testé.
Et qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est un très bon produit. Ouais. J'aurai les résultats de test complets totalement synthétisés, mais c'est un très, très bon produit. Sonos, c'est des top produits qu'on met aussi dans la partie nomade que je veux vous proposer là.
Elle est un peu chère, la Roam 2. Elle est à quasiment 200€.
Ouais.
Mais c'est un produit Sonos qui est à la fois Bluetooth et Wi-Fi.
Ouais.
Donc, en fait, vous pouvez l'intégrer dans votre écosystème d'enceinte Sonos.
Exactement.
Vous pouvez en appairer plusieurs, etc., etc. Elle peut marcher à la maison, dehors. C'est pas mal.
Et en plus, Sonos... Enfin,
sans doute peut-être un produit à prendre en compte qui est un petit peu plus sophistiqué que les autres. Mais qui est plus cher.
Dans la gamme Sonos, il y a Roam qui est vraiment fait pour être vraiment pas le haut, mais en tout cas du produit de qualité. Et il y a la gamme Sonos Move.
Oui, bien sûr.
La Sonos Move, alors je ne l'ai pas mis dans la sélection des produits nomades purs parce que c'est des produits qui sont trop gros, mais la Sonos Move et la Sonos Move 2, elles ont obtenu toutes les deux 4 étoiles. Et
donc en qualité de son, c'est meilleur que les précédentes.
Oui. Parce qu'en plus, beaucoup plus gros, beaucoup plus designé, vraiment pour une qualité de son meilleure. Et surtout avec une autonomie de 28 heures.
Waouh! Ah ouais.
28 heures.
Il faut dire que c'est un beau bébé. Hein.
Bah, c'est ça.
Je pense que la batterie doit être bien costaud là-dedans.
Moi, je pense que c'est ce qui prend le plus de place d'ailleurs. Mais en fait, on profite de ça pour justement avoir ce volume d'air à déplacer pour faire du son de qualité.
Mmh.
Et au niveau puissance, je rappelais, la JBL Charge 2, par exemple, c'est celle qui est à 91 décibels. La Sonos Move 2, elle monte à 102 décibels. Tous les 3 décibels, on double.
Ah ouais.
Donc là, c'est comme si on avait 5 JBL Charge, même 6 JBL Charge, pour donner le volume sonore, enfin la puissance sonore que va avoir une Sonos Move 2. Et celle-là, c'est environ 3 kilos et un peu moins de 5 litres.
Ouais, donc une petite soirée avec deux Sonos Move 2, ça le fait quoi.
Ah oui,
tu peux vraiment avoir une bonne ambiance.
Oui, complètement. Ce n'est entre guillemets que 4 étoiles. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on peut avoir des manques dans les graves. En fait, autre petit rappel, on est vraiment, nous, sur la mesure de la hi-fi. Hi-fi, ça veut dire haute fidélité. Si jamais une enceinte donne trop de basse, c'est un défaut.
Oui, bien sûr.
Il ne faut pas qu'il y ait trop de basse.
Oui, oui.
Même si certaines personnes vont préférer avoir ce son un peu boum-boum.
Oui, c'est légitime parce qu'en plus, on est à l'extérieur. Peut-être qu'on a envie d'avoir un son plus flatteur.
Qui nous fasse vibrer un petit peu, etc.
Voilà.
Sauf qu'en termes de hi-fi, ce n'est pas une bonne chose. On veut avoir quelque chose de clair, de net. En tout cas, les Sonos Move et Move 2 sont vraiment des super bons produits. Et la Sonos Move est à 299€, la Move 2 à 499€. Et quand on passe comme ça sur une génération supérieure, on a souvent des bonnes promos, des bonnes soldes, des choses sur lesquelles on peut profiter.
Ouais, il y a de grosses différences entre la Sonos Move première génération et la deuxième.
Il y en a une petite. Ouais, il y en a une petite, surtout en fonctionnalité.
D'accord.
Et aussi en qualité de son, on est vraiment pas loin, mais c'est en puissance, on va augmenter un petit peu, et en fonctionnalité, et en design, et en autonomie surtout. Là, on est à 28 heures, la Sonos Move, elle était à 14.
Ah ouais, ils ont doublé l'autonomie. Exactement. Carrément. Ouais. Mais bon, on perd 200€ aussi.
Voilà, c'est
un arbitrage à faire.
Exactement. Mais encore une fois, surtout si vous comptez partir en vacances, vous déplacer avec, ne sous-estimez pas la robustesse du produit. Parce que un beau produit, un beau bébé, on va l'emmener dans la voiture ou on va l'emmener dans un sac à dos. Si vous lui donnez trop de vibrations, ce que vous allez endommager, c'est les membranes. Et ces membranes-là, une fois qu'elles sont cassées, c'est quasi irréparable.
Oui, on la met à la poubelle, quoi, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà, bon, bah, écoutez, je pense que là, vous allez pouvoir faire votre choix. Là, tu n'évoques pas, on va dire, les grosses enceintes, tu sais, les boom...
Boombox.
Les boombox, ouais. Etc., etc. Qui est un autre segment,
ouais.
Finalement, que vous vendez aussi à la Fnac.
Oui.
Mais c'est autre chose, ça.
Ouais. On avait fait une chronique là-dessus, d'ailleurs, oui. Parce que c'est un produit qui est vraiment... Il y a encore 5 ans de ça, ça n'existait même pas. Enfin, on n'en parlait même pas. Il y avait une de temps en temps qui sortait. Mais c'est vraiment des trucs très exotiques. Et au final, ce qu'on appelle maintenant des enceintes d'ambiance qui couplent le côté batterie, le côté lumière aussi, parce qu'il y a des effets lumineux maintenant à chaque fois. Là, pareil, on a les toutes les marques majeures qui sont présentes. Il y a JBL, il y a Samsung, il y a Sony.
Aussi, hein, voilà,
Sony, exactement, Sony, ouais. Qui a sorti une qui est vraiment idéale, même si on fait de la guitare ou des micros, c'est-à-dire qu'elles ont des prises d'instruments de musique, presque des prises MIDI, en fait, qui nous permettent vraiment de faire un karaoké chez soi. Enfin, c'est avec des volumes sonores. Et là, par contre, on a vraiment des trucs, ça va jusqu'à 125 litres au niveau volume.
Ouais, donc là, on peut sonoriser une soirée sans aucun problème.
Sans aucun souci. Même si avec les voisins, il faut s'accorder. Voilà, c'est tout.
Ouais, il a bien dit, faites attention aux voisins. Hein. Il ne faudrait pas que ce type d'objet devienne comment dire, le fruit d'une de tension entre les voisins.
Parce que c'est vrai syndic, que, voilà.
Voilà, ça, ou alors, vous savez ce que vous faites, vous invitez le voisin à votre soirée.
Mais oui, c'est ça. Il faut faire ça.
C'est ça qu'il faut faire. Merci beaucoup.
Merci François.
Lionel, super. Donc rappelons hein, ces trois enceintes qu'on vous conseille, la JBL Charge Essentielle, la Fresh and Rebel Soul et la Bose Soundleak Flex. Lionel Costa qui est responsable du Labo Fnac. Pour terminer ce De quoi je me mail, bien sûr on était ravis de passer ce moment en votre compagnie, que vous soyez avec nous le week-end à la radio, à la télé sur BFM Business ou en avant-première dès le vendredi en audio ou en vidéo. Merci de nous suivre, on sera là bien sûr le week-end prochain, vous le savez, et à très vite. Bon week-end à tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.